Bien, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble dans Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 7, à partir du verset 27 jusqu'à 38. Et le titre de ce message, cette étude, c'est sous forme d'une question: qui est le Christ? C'est une question très valable, surtout de nos jours, comme au temps de Christ, où les gens cherchaient à savoir qui il était. Et par la grâce de Dieu, d'autres, par la révélation de l'esprit au cœur, ont cru au véritable Christ. Mais il y a d'autres que, même voyant tout ce qu'il faisait comme miracle, ils entendaient ses prédications et tout ce qu'il avait à dire au sujet de son Père et du salut, de la vie éternelle qui était en lui, une grande partie n'ont pas cru. Alors c'est une question que nous devons poser de nos jours, parce qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens. Ils disent aux États-Unis que 80% plus de la population professe être chrétien par rapport à d'autres religions qui existent. Mais la question est de savoir que pense-t-il de Christ, et même plus important, que pensons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, dans Jean chapitre 7 et le verset 27, c'est ça qui est la question. Dans le verset 26, nous avons vu la dernière fois que Christ est ici à Jérusalem pendant la fête des tabernacles, et les gens s'étonnaient parce qu'il était entouré des gens qui voulaient prendre sa vie, le faire mourir. Et voici verset 26, il parle librement, peu importe l'attitude de ces hommes religieux, de cette société contre Christ, rien ne l'empêchait à prêcher qui il est et pourquoi il est venu et pour qui il est venu. Il parle librement et ils ne lui disent rien. Donc ils sont étonnés de ce fait. Alors il pose maintenant la question: est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Les gens se posaient cette question entre eux. S'ils ne sont pas en train de le saisir pour le prendre et le faire mourir, alors peut-être que c'est une indication que ces chefs-là auraient reconnu qu'il est le Christ. Il y a des gens qui, par leur silence, on peut peut-être supposer qu'ils croient réellement, véritablement à Christ, mais c'est le cœur qui indique autrement. Et c'est ce que nous voyons ici avec ce mot dans le verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. C'était la pensée du jour, du fait que lorsque le Christ, selon eux, apparaîtrait, que on ne saurait d'où il vient. Mais ici, il pouvait indiquer un lieu, parce qu'il était connu comme Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il annonçait ses origines étant depuis l'éternité, et que le Père Céleste était son Père, pour cette raison, les gens s'opposaient, et ils disaient, mais comment il pouvait être le Christ, puisque nous connaissons ses origines, nous savons qui est son Père, et qui est sa mère, et qui sont ses frères, parce que Christ est venu en tant qu'homme, et voilà le mystère de l'incarnation de Christ, du fait que, quoique avoir des origines depuis l'éternité, il est venu dans la chair et il avait des racines terrestres. Alors, les gens avec leur logique, leur pensée naturelle, cherchent à comprendre ce mystère. Mais nous savons que ce n'est pas avec la logique, ce n'est pas avec les pensées naturelles que nous pouvons appréhender le Christ de la Bible. C'est par révélation. Et cela par la révélation de l'Esprit du Christ au cœur. Mais voilà la situation. Et les gens posaient cette question, qui est le Christ? Donc, verset 28, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Rien de ce que Christ faisait n'était caché ou fait en secret. Il n'était pas en train de rassembler autour de lui des disciples en secret. Donc, il est venu pour appeler à lui tout ce que le Père lui avait donné depuis l'éternité. Et donc, s'écria, veut dire d'une autre voix, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Alors voilà un point que Christ fait à leur sujet. Ils étaient des hommes religieux et ils ne voulaient pas croire que le Seigneur Jésus était le Christ dont les Écritures annonçaient, tout en prétendant qu'ils avaient comme père Dieu. Mais voyez comment Christ, qui est la vérité, et qui est venu par celui qui est vrai. Ça, c'est un des attributs de Dieu, la vérité. Il ne peut pas renoncer à lui-même. Dieu n'œuvre pas par le mensonge. Donc, il dit, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Ça nous montre que nous ne pouvons pas rejeter le Christ de la Bible, et en même temps dire que nous connaissons Dieu. Celui qui rejette le Fils rejette le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Vous ne le connaissez pas. Imaginez se lever dans des milieux aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui sont rassemblés selon eux pour adorer Dieu, et leur dire « vous ne connaissez pas Dieu ». Ce n'est pas le fait de professer Dieu avec nos lèvres et l'honorer avec les lèvres, mais le cœur n'est pas soumis à qui il est et ce qu'il a révélé au sujet de son Fils. Mais Christ déclare ici dans le verset 29, « Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Christ continue à insister sur cette vérité, qu'il n'œuvrait pas seul, qu'il n'est pas venu comme les autres pour parler à son chef, mais il a été envoyé par Dieu. Comme je dis souvent, si nous voulons savoir la vérité au sujet de Christ et connaître en vérité son évangile, il s'agit de savoir qui il est, pourquoi il est venu, et dans ce pourquoi, c'est qu'il a été envoyé selon la volonté éternelle de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Le pourquoi, c'est de savoir que le Seigneur Jésus est venu sauver particulièrement ce peuple que le Père lui a donné. Ce n'était pas pour tout le monde. Pourquoi Christ pouvait parler de cette manière directement? Il n'était pas influencé par les sourires des hommes ou leurs applaudissements. Il ne cherchait pas leur gloire, mais la gloire seule de son Père. Et même s'il y avait, comme de nos jours, beaucoup d'incrédules. Et je parle encore des milieux soi-disant chrétiens. Il y a un Christ qui est prêché. Comme ces Juifs, ils cherchaient un Christ. Mais pas ce Christ-ci. Et si la vérité est prêchée au sujet du Christ de la Bible dans des milieux soi-disant chrétiens aujourd'hui, vous aurez la même réaction de la part de ces gens qui sont bien vrai religieux, zélés, mais pas selon la connaissance que l'Esprit du Christ donne à ceux qui lui appartiennent. Donc, nous ne devons pas nous étonner s'ils ont réagi de cette manière au sujet du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas mieux que notre Maître. Ils vont réagir de la même manière contre nous. Et c'est pourquoi, lorsqu'il disait ceci, moi je le connais. Et bien vrai, comme Jean a dit dans le premier chapitre, qu'il est la parole, et la parole était avec Dieu depuis l'éternité, qui peut mieux connaître le Père que son Fils éternel, et dit, je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé en toute chose. Christ est venu donner toute la gloire à son Père. Mais pour cela, ouais, le verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Tout cela est important. Et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Donc, encore, ça revient sur ce que nous avons lu dans Jean chapitre 1 déjà. Et le verset 11, bien vrai, étant la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il s'agit là des Juifs, de cette société religieuse. Mais, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, et cela c'est pour notre encouragement, il y en a que Dieu a destiné au salut, et par sa grâce, ils croiront. Comment est-ce qu'ils croiront? C'est écrit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si quelqu'un croit véritablement, et nous savons qu'il y a ceux qui disent qu'ils sont croyants, mais Dieu connaît leur cœur, mais ceux qui croient par la grâce de Dieu, attachés à Christ et à sa mort accomplie à la croix pour leur péché, ceux qui croient, la raison est donnée. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est écrit ici, dans le verset 31, parmi la foule, plusieurs crurent en lui. Je crois que cela est écrit par Jean pour nous faire savoir que la prédication et ce que Christ est venu faire n'était pas fait en vain, que ceux à qui son ministère était destiné, et cela n'était pas pour tout le monde. Les prédicateurs aujourd'hui imaginent que Dieu veut que tous les gens soient sauvés, non. Lorsque nous ne prêchons pas pour convaincre les boucs. Nous prêchons pour les brebis, parce que Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Mais c'est en entendant sa voix, c'est-à-dire c'est Christ qui donne les oreilles pour entendre. Il y a des gens qui sont sourds et qui n'entendent pas. Pourtant, en regardant leur visage, ils ont des oreilles. Mais il ne peut pas entendre Ce n'est pas le fait de ne pas avoir les fonctions physiques pour entendre, mais c'est une œuvre spirituelle. Et c'est comme ça. Beaucoup de gens s'assoient, même dans nos assemblées où nous prêchons fidèlement, jour après jour, cet évangile de Christ qui nous donne toute la gloire, les gens s'assoient pour écouter, mais ils n'entendent pas. Ça, c'est vrai même dans notre congrégation, ici à Shreveport, où je prêche maintenant depuis 22 ans. Si vous me demandez, mais est-ce que c'est tout le monde là qui croit, je dois dire non. Dieu seul connaît leur cœur. Là où il y a le blé, il y a aussi l'ivraie. Là où il y a les brebis, il y aura aussi les boucs. C'est comme ça que Dieu l'a ordonné. Et c'était comme ça avec notre Seigneur. Les gens le voyaient physiquement. Ils entendaient ses prédications. Mais la plupart n'ont pas cru. Mais ça, ce n'est pas la faute par défaut du fait que Christ lui-même était impuissant, non. On doit dire que la parole n'a pas été pour eux, mais ceux pour qui Christ est venu, ils ont cru. C'est pourquoi nous lisons verset 31, plusieurs parmi la foule, c'est pas tout le monde, mais plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disent, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Parce que les gens niaient que c'était le Christ. Alors, ceux-là s'étonnent que selon les Écritures, le Christ, quand il devait venir, il devait faire de ses miracles et en voyant ce qu'il faisait, en entendant sa prédication, ceux qui croyaient, disaient, mais il n'y en a pas d'autre. On ne doit pas chercher d'autre que celui-ci, parce que ses œuvres manifestent qu'il est véritablement le Christ. Voilà le témoignage. Et je dois dire, c'est le témoignage de tous ceux en qui Dieu, par son esprit, a révélé le Christ. On ne cherche pas d'autre. Nous sommes satisfaits de ce que les Écritures disent à son sujet et nous nous reposons en lui. Et tout cela pour la gloire de Christ. Mais voilà encore jusqu'à quel point les pharisiens, les hommes religieux détestaient le Christ. Pourquoi? Parce que il recevait la gloire de la part des hommes pécheurs. Et les pharisiens eux-mêmes, comme beaucoup de dirigeants aujourd'hui, ils aiment le pouvoir. Ils aiment garder le contrôle sur leur congrégation. Ils prétendent prêcher pour la gloire de Christ. Pourtant, ils veulent toujours que les hommes soient soumis à leur autorité. Donc, verset 32 de Jean 7, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Quand c'est écrit murmurant, c'est comme les gens parlent les uns avec les autres dans une foule, d'une basse voix. Et les pharisiens voyant, ce n'est pas qu'ils murmuraient contre le Christ, mais ils discutaient entre eux de la vérité, de la véracité de ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. Et pour cela, les pharisiens devenaient jaloux. Alors, les principaux sacrificateurs, voyez qui est impliqué ici. C'était des gens qui avaient cette responsabilité d'offrir les sacrifices et d'enseigner les gens dans la loi. Pourtant, ils ignoraient que devant leurs yeux était maintenant l'accomplissement de tout ce que les Écritures signifiaient et surtout dans les offrandes, les sacrifices et leur rôle en tant que principaux sacrificateurs. S'ils avaient des yeux pour voir, ils allaient comprendre que tout cela Dieu a mis en place pour la gloire de son Fils qui devait venir, et le voilà. Mais quand on est aveugle, peu importe la lumière qui brille autour de nous, nous ne pouvons pas voir. Et tel est le cas spirituellement. Nous devons tous dire qu'il y avait des années peut-être que nous avons lu cette Bible et tout est clairement enseigné dans ces Écritures au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, on lisait cette parole aveuglement et il fallait maintenant l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux pour voir que oui, chaque passage de la Bible concerne Christ. La loi n'a jamais été donnée comme un moyen de salut. La loi a été donnée pour trois raisons. D'abord, pour révéler la sainteté de Dieu. Et si quelqu'un comprend la loi telle qu'elle est, cette personne doit comprendre que rien que ce que nous pouvons faire ne peut satisfaire à sa sainteté, à sa justice. La loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Pourtant, il y a des gens qui prennent la loi et prêchent la loi comme si c'est une manière maintenant de s'approcher de Dieu. Non. Et deuxièmement, la loi, non seulement pour révéler la sainteté de Dieu, mais deuxièmement, c'était donné pour révéler la grandeur de notre péché devant Dieu. Parce que c'est écrit dans Romains 3, que la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Tant que quelqu'un se vante toujours devant Dieu comme si il est obéissant à Dieu, sa bouche n'est pas fermée. Il se justifie lui-même, mais il n'a rien compris encore. Mais deuxièmement, révéler son péché, la nature de sa dépravation devant Dieu. Ça a été donné afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ceux qui ont bien compris la loi comprennent que cette loi n'est pas un sauveur. Il faut un sauveur pour satisfaire à cette loi afin que les pécheurs comme nous soient sauvés. Et voilà la troisième raison que la loi a été donnée. C'est de conduire ceux en qui Dieu révèle son esprit, les conduire à Christ, au Seigneur Jésus. Et en lui, trouver celui qui est venu satisfaire à la loi, non seulement à la lettre de la loi, mais même l'esprit de la loi. Et la satisfaction à la loi par Christ comprenait non seulement son obéissance aux préceptes de la loi, mais comprenait aussi la peine qui était la mort. Ce qui fait que lorsque Christ a achevé son œuvre à la croix, il ne restait plus rien que pour Dieu d'imputer sa justice au compte spirituel de tous ceux pour qui Christ est venu sauver. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire que Christ a donné sa vie pour tous les êtres humains. Si tel était le cas, donc, tous les êtres humains sont justifiés, parce que qu'est-ce qui justifie un pécheur devant Dieu si ce n'est l'œuvre de Christ? Sa vie d'obéissance et sa mort efficace. Voilà tout ce qui est la justice des pécheurs que Christ est venu sauver. Mais ces pharisiens, les hommes de la loi, ces principaux sacrificateurs, au lieu d'embrasser Christ comme celui dont les Écritures annonçaient, ils envoyaient plutôt des huissiers pour le saisir. C'était leur garde qui gardait le temple. Ils envoyaient cela pour le saisir. Mais le Seigneur Jésus n'a pas cessé à cause de cela de, d'annoncer la vérité. Verset 33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus continuait à poser des obstacles devant ces hommes dans leur incrédulité. C'était sa manière de leur montrer jusqu'à quel point ils étaient incrédules. Alors, en disant cela, il ajoute dans le verset 34, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi, verset 35, les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il ? » Ils imaginaient toujours dans le sens naturel, telle était leur autorité qu'ils imposaient sur le pays. Et même avec ce pouvoir naturel qu'ils supposaient avoir en envoyant des huissiers pour le saisir, ils imaginaient, mais il ne peut pas se cacher. Il suffit d'aller le prendre et puis c'est fini. Mais Christ leur dit que vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Il parlait là d'abord de sa mort, qu'il pouvait peut-être le saisir jusqu'à un tel point et le faire mourir, mais après ça, il ne pouvait plus rien faire parce que Christ allait ressusciter des morts et il allait monter au ciel et où il est assis au ciel, aucun homme ne peut le toucher. Mais ça serait dans la victoire que tout cela s'accomplira. Donc, Christ ici est déjà en train de prédire non seulement sa mort, mais sa résurrection et son ascension au ciel où il devait maintenant reprendre cette place de gloire auprès de son Père. Et personne ne pouvait le trouver ni mettre la main sur lui. Alors, sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas ?» Les gens, quand ils entendent la prédication de Christ, au lieu de se soumettre à cette vérité, ils raisonnent entre eux. Voilà le problème. Quand vous voyez les gens se conférer, en train de, d'ailleurs, le mot « conférence » signifie cela, se réunir en conférence, veut dire, on va partager des idées. Voilà pourquoi même ces conférences bibliques ne sont pas réellement bibliques. Il nous faut la prédication de Christ. Il nous faut s'asseoir et écouter cette parole. Mais là où il y a de l'incrédulité, les gens veulent toujours se conférer, ils veulent toujours parler entre eux et échanger leurs idées. Donc, ils ont posé cette question entre eux. Notez bien, verset 35, les Juifs disent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Pourquoi ils n'ont pas posé cette question dans l'humilité à Christ? C'est parce qu'ils ne voulaient pas croire. Christ a dit ça de ceux de son époque, et la même chose s'applique aujourd'hui. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Voilà le problème. La volonté de Dieu, la volonté des hommes n'est pas soumise à la volonté de Dieu. Ça exige l'œuvre de l'Esprit et de sa grâce pour détourner la volonté de l'homme et de l'amener un tel pécheur à Christ. Donc, il disait entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Et puis, ils disent, ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Pour eux, c'était peut-être leur souhait qu'il allait quitter entièrement le pays d'Israël et aller là où les Juifs étaient dispersés parmi les nations. Et enseignera-t-il les Grecs? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ils étaient en train, en fait, de prophétiser de ce qui devait se passer après sa résurrection et son ascension. Que véritablement, puisque cette nation, selon la volonté de Dieu, est restée dans l'incrédulité, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous savons que Dieu a amené maintenant cet évangile parmi les nations. Mais jusqu'à ce point, Christ devait rester là, parce qu'il est venu là pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas tous les citoyens de la nation, mais les brebis perdues, c'est-à-dire les élus parmi la nation d'Israël. Et il ne devait pas aller ailleurs jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Donc, voilà le raisonnement naturel des gens au sujet de Christ. Au lieu de chercher à le connaître en vérité, les gens veulent se justifier dans leur position. Et nous voyons la même chose aujourd'hui. Quand nous sortons pour prêcher le Christ, tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, nous avons les mêmes réactions des gens. Ils veulent discuter avec nous au lieu de se soumettre à la révélation de Christ telle que nous voyons dans la Bible. Alors, il posait encore cette question, verset 36. Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Voilà un point qui fait que les hommes s'opposent davantage de leur dire qu'ils ne peuvent pas venir de leur propre volonté. Quand Christ dit dans le verset 34, « Vous ne pouvez venir où je serai », ça c'est une réalité. Et les gens s'opposent parce qu'ils veulent croire qu'ils ont le libre arbitre, qu'ils ont la capacité de faire le choix eux-mêmes s'ils veulent. Mais Christ dit précisément ici, vous ne pouvez venir où je serai. Et ça, c'est la réalité. Personne ne peut entrer au ciel de sa propre volonté. Tous ceux qui prêchent que ça dépend de l'homme, que Dieu a fait tout ce qu'il veut et maintenant ça dépend de vous de prendre le premier pas, tout cela, c'est le mensonge. Donc, les gens doivent savoir, comme Christ a prêché ici, que vous ne pouvez pas venir où il est, tant que lui-même inouvre ce chemin et lui-même il ne vous attire. Mais je dois dire que voilà un point que les hommes maintenant trouvent comme un scandale et ils s'opposent donc à un tel message. Un tel Christ. Mais voilà le point clé dans toute l'incrédulité, c'est que les hommes ne veulent pas que Christ soit Christ. Les gens ne veulent pas qu'il ait le pouvoir. Les gens veulent une partie de ce pouvoir pour eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils apprécient le message populaire, parce que les prédicateurs sont en train de dire qu'en fait, la décision dépend de vous. Mais Christ dit le contraire. Vous ne pouvez pas venir où je serai. Le brigand qui est mort ce jour-là à la croix, ce n'est pas par ses mérites qu'il est rentré au paradis. C'est parce que Christ voulait qu'il soit avec lui au paradis. Et Christ a donner le pouvoir à ce brigand par rapport à l'autre qui continue à se moquer de Christ jusqu'à sa mort. Il représente même ces pharisiens qui étaient dans leur incrédulité. Mais ce brigand qui a demandé à Christ de se souvenir de lui, il n'avait aucune mérite en lui-même, mais il dépendait de la volonté de Christ, et c'est Christ qui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà comment nous pouvons entrer là où il est, c'est par sa volonté. Et il est venu pour faire la volonté de son Père, qui lui a donné exactement ce pour qui il devait mourir. Alors, nous lisons à la suite que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, d'où vient la soif? Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et celui qui a la soif, il viendra certainement à Christ qui est la vie éternelle. Et nous allons voir ça du volant la prochaine fois. Donc, si je peux résumer les points clés de ce message, on va commencer en posant la question, qui est le Christ? Tout d'abord, il faut insister là-dessus que l'homme naturel ne peut connaître le Christ, comme nous voyons dans le verset 28, savoir qui il est ou d'où il vient. Ça, c'est par la révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même et l'œuvre de l'Esprit dans le cœur. Deuxièmement, l'homme naturel ignore la divinité de Christ et tout ce que cela implique. Comme nous avons vu dans le verset 29, Christ déclare son origine en tant que Dieu. Les gens ne voient qu'un homme devant eux, mais il déclare qui il est en disant, je le connais, je connais Dieu, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Donc, là, il déclare ce que les gens ignorent, que Christ est Dieu dans la chair. S'il le connaît et qu'il vienne de lui, cela veut dire qu'il existait bien avant son apparition ici sur la terre. Il y en a aujourd'hui qui disent, oui, Christ est Dieu. Pourtant, la manière qu'il l'explique aux gens, c'est comme il n'est pas Dieu. Ils disent qu'il est Dieu, mais hélas, il ne peut pas faire au-delà de ce que l'homme veut. Donc, c'est un petit Dieu qui est entre les mains des hommes pour faire ce qu'ils veulent de lui, plutôt que le Dieu que nous voyons ici dans les Écritures, qui vient de Dieu et qui fait tout ce que son Père lui a envoyé de faire. Donc, les hommes, les pécheurs entre ses mains, voilà un véritable Dieu qui règne. Tel est le Christ de la Bible. Mais les hommes naturels ignorent la divinité du Christ et tout ce que cela implique, non seulement dans son origine en tant que Dieu, mais deuxièmement, dans le verset 30, son autorité en tant que Dieu. Lorsqu'il dit, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans ce cas-là, qui dirigeait les événements? C'était Christ. Et même lorsqu'ils sont venus le saisir dans le jardin, dans Luc chapitre 22, le verset 53, d'ailleurs, dans le verset 51, Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est parce qu'un des disciples a pris une épée pour essayer de frapper le serviteur du souverain sacrificateur. Et au lieu de lui enlever la tête, il lui a enlevé l'oreille droite. Mais Christ lui dit, laissez, arrêtez. Christ n'a pas besoin à ce que nous prenions des armes pour défendre sa cause. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Parce que tout ce que nous pouvons savoir, c'était le dernier miracle que Christ a fait avant de mourir à la croix, guérissant l'oreille d'un de ses ennemis. Mais Jésus dit, verset 52, ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, les huissiers, et aux anciens qui étaient venus, notez, contre lui. C'est une chose de venir à Christ par sa grâce, mais il y en a qui viennent contre lui. Ils se réunissent contre lui et sa gloire. Et il dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais, notez bien, c'est ici votre heure. Ici, il a dit, il ne pouvait pas le toucher parce que ce n'était pas son heure, mais son heure, précisément l'heure ordonnée par le Père lui-même qui devait être offert maintenant à la croix. Voici ici votre heure. Mais notez comment c'est décrit. Et la puissance des ténèbres. Faut faire attention de désirer que Dieu nous laisse à notre volonté. Peut-être il y en a qui vont dire, ah, mais je suis libre de choisir comme je veux. Si Dieu laisse un tel pécheur dans cet état, je dois dire, c'est un état de ténèbres et de jugement. Il n'y a pas de plus grand jugement que pour Dieu de laisser les hommes à leur propre choix par rapport à Christ. Je remercie le Seigneur qui ne m'a pas laissé à mon choix, mais qu'il a, par sa grâce, il a daigné m'appeler, m'attirer à lui-même. Et pour cela, je le remercie. Donc, l'homme naturel s'oppose à Christ et à la divinité et son autorité. Mais troisièmement, il faut dire que l'homme naturel ne saurait interpréter les Écritures au sujet de Christ. Dans le verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disent, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Comment ils savaient que le Christ, en venant, devait faire de ces miracles? C'est écrit dans Ésaïe chapitre 35 de l'Ancien Testament et le verset 5 et 6. Donc les gens savaient que les Écritures annonçaient les signes qui devaient accompagner le Christ lorsqu'il serait venu. Et ici dans le verset Ésaïe chapitre 35 et le verset 5 et 6, c'est écrit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans le monde. Cela annonçait la venue de Christ et c'était de cela même que Christ a dit à ceux que Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, a envoyé auprès du Christ pour lui demander est-ce qu'il est le Christ ou est-ce qu'on devait attendre un autre. Ça, c'était Jean-Baptiste. Dans un moment de doute, lorsqu'il était en prison, mais le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples auprès de Jean pour lui dire que il faut dire à Jean, comme nous venons de lire ici, les boiteux marchent, les aveugles voient, et tout cela comme preuve qu'il est véritablement le Messie. Et pour cela, c'était un réconfort pour Jean-Baptiste lorsqu'il était emprisonné pour la cause de ce Christ-là, de le rassurer que non, il n'y a pas un autre. Mais l'homme naturel ne saurait interpréter les Écritures au sujet de Christ, et c'est toujours comme ça. Nous ouvrons cette Bible et nous voyons Christ partout. Et même si on ne le voit pas, on sait qu'il est le sujet de toutes les Écritures, mais il y en a beaucoup qui ouvrent cette Bible et qui voient d'autres choses que le Christ et le Christ crucifié. Alors, s'il nous a donné des yeux pour voir, remercions-le. Et puis, le dernier point que je voudrais souligner dans le verset 32, c'est que l'homme naturel aura toujours la haine pour le véritable Christ. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Vous savez que la plus grande opposition au sujet de Christ vient souvent pas des congrégations, pas de ceux, des membres des congrégations, mais des dirigeants. C'est ceux qui s'opposent le plus. Et puisqu'ils sont encore aveugles, ils ne savent pas que dans ce Jésus-Christ qu'ils s'opposent est toute la vérité. C'est pourquoi ils peuvent prêcher autre chose que Christ et Christ crucifié, parce qu'ils sont encore dans leurs ténèbres spirituelles. Mais je remercie le Seigneur du fait qu'il ne nous a pas laissé nous-mêmes dans ces ténèbres, parce que nous sommes de même nature que qui que ce soit, mais que le Seigneur continue à nous bénir et à nous fortifier, surtout dans le combat, parce que combat, il y en a. Nous pouvons imaginer, nous pouvons anticiper qu'il y a une bataille qui mène simplement en prêchant le Christ de la Bible. Et souvent, cette opposition vient de la part de ceux qui prétendent servir Christ, mais ils ne veulent pas que ce Christ-ci règne sur eux. Ils ont un Christ, petit C, comme ils ont un Dieu, petit D, qu'ils servent, mais pas le Dieu de la Bible. Autrement, ils seraient soumis à ce Christ qui est révélé ici. Alors que le Seigneur nous encourage, nous fortifie à annoncer toujours la vérité au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Amen.